des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à tous. Que l'on y adhère ou qu'on les critique, nul ne peut nier que les études de genre, les fameuses gender studies, se sont imposées depuis 30 ans comme l'événement intellectuel le plus lourd de conséquences dans les sciences humaines. Aucun intellectuel ambitieux aujourd'hui, voire aucun artiste et certainement aucun journaliste s'intéressant à la société, ne veut plus envisager de produire quelque travail que ce soit sans y faire référence de manière au moins implicite. Le genre, écrit pour sa part Eric Marty en ouverture de son livre événement sur le sujet Le sexe des modernes qui sort en ce moment, le genre est le dernier grand message idéologique de l'Occident au reste du monde. Mais de quel message s'agit-il au juste et d'où vient-il? Des campus américains comme on le dit ici ou bien de la French Theory comme on l'affirme aux États-Unis? Et de quel bouleversement ces gender studies sont-elles le signe? Sont-elles le vecteur d'une nouvelle révolution sexuelle? Le symptôme d'une désexualisation inédite au contraire des sociétés occidentales? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec Eric Marty, dont Le sexe des modernes s'affirme comme la première grande enquête historique et philosophique sur le sujet, et à travers cette enquête, la première tentative pour tenter de comprendre ce que le genre veut dire. Eric Marty, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous êtes essayiste, vous êtes professeur de littérature française à l'université Paris Diderot. Vous avez écrit beaucoup de livres sur Roland Barthes, le métier d'écrire. Vous avez écrit Bref séjour à Jérusalem, qui avait fait beaucoup parler à l'époque. Une querelle avec Alain Badiou. Plus récemment, L'invasion du désert, qui est un roman. Et vous publiez donc aujourd'hui le titre complet du livre, Le sexe des modernes, pensée du neutre et théorie du genre. Alors d'abord, c'est une enquête impressionnante. Vous connaissez très bien le sujet, mais quand même, qu'est-ce qui vous a décidé à entrer dans un travail pareil qui est quand même impressionnant?
Oui, ben disons que j'ai été peut-être pris par le sujet plutôt que je ne l'ai pris.
Oui.
C'est-à-dire que, en fait, c'est une question qui m'a saisi parce que je rencontrais cette question partout, constamment. Comme vous le dites, à tous les niveaux, aussi bien universitaires que littéraires, même romanesques, que journalistiques ou que quotidiens. Et c'est cette question qui m'a peut-être tout de suite frappé, c'est pourquoi le mot « genre » est devenu tout d'un coup un signifiant indispensable, au point qu'on se demande comment on faisait avant pour parler sur cela sans le mot « genre ». C'est-à-dire qu'il y a donc un phénomène qui, à mon avis, est très intéressant sur le plan de l'histoire de la pensée, l'histoire de la culture, l'histoire des comportements. C'est comment ils sont modifiés, ou troublés plutôt, peut-être, par l'émergence d'un terme qui, tout d'un coup, prend toute la place, occupe une place telle que, en effet, il devient tout d'un coup un terme qu'on ne peut pas s'en passer. Et donc, donc du coup, il me fallait prendre au sérieux la question, c'est-à-dire ne pas du tout la traiter sur un mode polémique ou sur un mode purement critique ou alors dans une apologie complètement effrénée de la chose, mais sur la forme d'une enquête, une enquête qui est à la fois alors historique, philologique, philosophique, sociologique aussi, puisque c'est quand même aussi l'histoire des intellectuels, l'histoire des comportements intellectuels que j'examine dans ce livre, et leur rapport à la théorie, leur rapport à la pensée, leur rapport à l'écriture même, et
deux continents en plus.
Voilà, et peut-être aussi comment cette question du genre est aussi très importante pour nous, je dirais tout bêtement nous Français ou nous Européens, en tant que cette question du genre est un concept mitoyen deux univers, et une mitoyenneté qui est très délicate.
C'est un des paradoxes que vous soulignez tout de suite. Le mot « genre » lui-même, qui est le plus simple à traduire en français en apparence, contient, vous dites, un intraduisible fondamental. On sait que le mot « gender », qui vient du français, en fait, de l'ancien français « gendre », devenu en français moderne « genre », est lui-même issu du latin « genus », qui signifie « race ». Donc on va en reparler parce que c'est le lien avec les théories intersectionnelles est quand même impressionnant. Mais vous dites qu'en dépit de cette similarité entre ce passage entre les deux univers français et anglais, américain surtout, il y a un intraduisible, quelque chose qui ne peut pas être traduit.
Absolument. Alors ce qui est amusant, c'est que l'intraduisible touche à beaucoup de termes, comme le mot gay par exemple, qui est aussi un terme français, qui est passé à l'américain, qui est revenu en France et qui lui aussi est devenu un mot indispensable pour désigner un certain type de comportement sexuel ou d'orientation sexuelle. Et c'est vrai aussi pour le mot performatif que Butler emploie beaucoup, dont elle a fait son concept central, qui aussi vient du français, que Benveniste va contester et va vouloir refranciser. Je crois qu'il y a beaucoup de symptômes, si vous voulez, me semble-t-il, d'un très ancien conflit, ou en tout cas d'un conflit qui est au moins très puissant au XXe siècle, d'une rivalité entre, je dirais, la pensée française ou les... Et l'émergence d'une pensée américaine qui a des visées de domination assez évidentes, des visées de, en tout cas, de se répandre. Et donc, là aussi, c'était une question qui me touchait beaucoup. Qu'est-ce qui se passe dans cet aller-retour? Aller-retour entre Berkeley et Paris, aller-retour qui fait que, aujourd'hui, tout d'un coup, des gens semblent avoir complètement oublié ce que disaient Lacan, Barthes, Deleuze et les autres, pour le retraduire.
Tout en réclamant.
Voilà, tout son sacrement, qu'il le répète non plus dans la version originale, mais en version, je dirais, traduite via Butler, via les Américains. Donc ça aussi, c'est fascinant j'en fais pas une étude très, très, très pointue, très précise, mais en tout cas, je note ce retour de, j'irais, et ces allers-retours qui sont constitutifs, à mon avis, du caractère fondamental de cet émergent du mot genre, et qui n'est pas seulement un mot, qui a une fonction signifiant, à savoir qui opère des partages.
Alors, je pondérerai une seconde quand même, c'est une pensée américaine, peut-être, plutôt que la pensée américaine, l'occurrence, celle de Judith Butler. Donc, pour fixer un peu les idées et voir comment il y a beaucoup de choses dans votre livre, donc je vais essayer de suivre une ligne qui me semble centrale, et que vous rectifierez si je suis trop schématique. Mais la pensée du genre, donc, émerge à travers les livres de Judith Butler en 90, Trouble dans le genre, qui est le best-seller fondamental sur le sujet, dont la fiche Wikipédia, qui est en anglais, est intéressante à citer parce que tout de suite, la fiche dit que le livre a vendu plus de 100 000 exemplaires à l'international et que le livre discute les travaux de Freud, Simone de Beauvoir, Kristeva, Lacan, Derrida, Foucault. Donc tout de suite, les intellectuels français sont cités comme une sorte de caution sur les théories du genre, alors que, et c'est ce que vous, c'est la première partie de votre livre, vous pointez la différence immédiate entre la théorie française et les études de genre, entre la théorie et les études, et entre la pensée, ce que vous appelez la pensée du neutre, et la pensée du genre, qui sont deux choses absolument complètement différentes. Alors, on peut tout de suite commencer peut-être par résumer l'idée du neutre chez Derrida et chez Barthes, en quelques mots pour fixer quand même un peu les choses.
Oui, très rapidement, disons que dans la modernité française des années, disons, 50-80, un peu plus tard, comme ça, il me semble qu'il y a une pensée qui est dominée par la pensée lacanienne, par Lacan, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, nous sommes gouvernés par l'ordre symbolique, qui organise la différence sexuelle, qui fait du phallus une figure centrale dans notre, dans les façons d'identifier sexuellement par rapport à l'autre, etc. Et cette domination a entraîné précisément des intellectuels, je dirais, qu'on pourrait dire dissidents, en tout cas, qui sont en dissidence par rapport à Lacan, et en même temps fascinés par lui, fascinés par son discours, et qui donc établissent le neutre dans un rapport un peu retors à la pensée lacanienne. C'est-à-dire, le neutre, c'est une pensée, je dirais, qui retourne la loi contre elle-même, par exemple, qui fait que la loi devient à ce moment-là le lieu de transgression, non plus le lieu de... je dirais, d'obéissance, qui joue beaucoup avec tous les concepts lacaniens comme la castration. Hein, selon Lacan, nous sommes soumis au principe de castration, c'est-à-dire une forme d'autolimitation que l'ordre symbolique impose. Alors... Et le neutre, c'est une manière de neutraliser précisément cette vision extraordinairement centrale, organisée,
Vous écrivez, pour le neutre, le sens naît des oppositions linguistiques de type binaire, dont l'opposition masculin-féminin est une illustration exemplaire, et c'est dans le langage, et du langage même que la pensée du neutre vise à obtenir une exemption du sens ou une autre logique du sens chez Deleuze, mmh. ou un désœuvrement ou une différence avec A, différence F-A-N-C-E chez Derrida. Donc c'est-à-dire que le neutre permet d'atteindre une sorte de silence du genre.
Absolument.
Et donc Judith Butler, et c'est le grand paradoxe, va se réclamer de cette pensée française tout en lui reprochant ce qu'elle appelle son romantisme, son pessimisme, son éloge de l'échec, en quelque sorte.
Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle-même, je dirais, établit d'abord un rapport quand même de rivalité, américano-français, puisque dans sa préface à Trouble dans le genre, tout en montrant son agacement de voir son œuvre qui n'est pas encore traduite en français, alors qu'elle l'est dans tous les pays européens, explique que, au fond, la French Theory, donc effectivement Lacan, Deleuze, Foucault, etc., la French Theory est en fait une American construction, oui. est une construction américaine. Et donc, il y a quelque chose d'un petit peu, je dirais, retors là aussi, dans la position de Butler, c'est-à-dire que tout en effet, en affichant en quelque sorte une sorte de francocentrisme théorique, puisqu'elle reprend en effet beaucoup, beaucoup du vocabulaire, du lexique, et même des attitudes théoriques françaises, en réalité, elle donne l'envers de l'opération qui est d'en faire une construction profondément américaine. Et je pense qu'en ce sens, elle livrait, et du même coup, d'ailleurs, elle tournait un petit peu en dérision cette espèce d'illusion que les Français ont eu parfois de conquérir l'Amérique. Derrida faisant les tournées, enfin les stars françaises, disons, régnant sur le campus américain. Tout cela, tout d'un coup, se dévoile être une pure illusion, et qu'en réalité, il y a eu transfert culturel, mais transfert culturel, c'est-à-dire, au fond, peut-être une forme de perte et de déperdition. Et la grande opposition que va faire, en effet, Butler, c'est sous les modes qui sont assez, sur le plan de la stratégie intellectuelle, intéressant à étudier, comment elle introduit des sortes de coins dans la pensée française, et notamment, vous l'avez dit, cette accusation de romantisme, qui est tout à fait importante à mon avis, parce que d'abord elle est assez typiquement américaine de projeter sur les Français cette image du romantisme, on le trouve assez souvent chez les Américains, mais surtout elle montre, si vous voulez, aussi une lucidité de Butler. C'est en ça que mon livre n'est jamais, si vous voulez, tout en démontant le système butlerien et en montrant effectivement certaines de ses faiblesses, il n'est jamais hostile, au sens où, sur ce point, Butler voit juste. Il y a en effet un romantisme européen français, un romantisme chez Deleuze, sa chère Mazoc, c'est une figure romantique du masochisme qu'il met en évidence. Barthes, le romantisme est complètement imprégné chez lui, et chez Lacan, le grand scénario lacanien avec pulsion de mort, avec castration, avec tout cet échafaudage théorique très mythologique, est traversé aussi par une sorte de schème romantique au sens de Butlerien, mais, et c'est là où c'est très important, le romantisme, elle le voit dans la fascination pour l'échec.
Oui, voilà. Alors c'est ça qu'il faut un peu expliquer, c'est qu'est-ce que ça veut dire cet échec? C'est derrière ce romantisme et derrière le montage qui vient de la psychanalyse, qui explicite en fait l'ordre symbolique dans lequel s'inscrit le langage. Il y a cette idée que Lacan est évidemment fasciné par le lapsus, l'acte manqué, c'est-à-dire que la polysémie, et l'idée essentiellement que l'autre constitue le lieu où le sujet ne peut se situer, mais que la parole veut atteindre. C'est-à-dire que la parole, quelle que soit sa capacité performative, échoue toujours à nommer exactement ce qu'elle veut désigner. Ouais. Et c'est la clé de l'ordre. C'est ça l'ordre symbolique en fait. C'est qu'il y a toujours un échec à atteindre, voilà. à atteindre l'autre. C'est presque une conception presque mystique du langage.
Il y a un romantisme dans la mesure, je pense, où il y a une forme de plaisir de l'échec. En tout cas, il y a une forme de fascination pour l'échec, et aussi on crédite l'échec d'une intelligence supérieure en quelque sorte. C'est-à-dire que dans l'échec, il y a quelque chose qui relève en effet d'un dépassement de l'empirique. C'est-à-dire qu'au fond, tous ces intellectuels pour lesquels j'ai la plus grande admiration, qui sont des gens très très intelligents, tous, ils sont d'une grande intelligence, et d'une très très puissamment intelligents, font des sortes d'explorations très longue, très 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 détaillée alors par exemple justement de la question sexuelle, mais toujours sous la forme précisément de cette relation à l'échec, ou en tout cas cette relation à la non-réussite.
C'est-à-dire qu'on n'atteint jamais vraiment le monde.
On n'atteint jamais le monde, l'autre.
L'autre,
etc. Voilà. Et comment l'action de Lacan selon laquelle il n'y a pas de rapport sexuel est, je dirais, pour moi, la phrase emblématique, on pourrait dire, de toute cette génération, et même du fait de la théorie française en tant que telle, au sens où on inscrit un énoncé qui, évidemment, ne correspond à rien de ce que vivent les gens, parce que les gens, évidemment, font l'amour et ont des rapports sexuels, mais qui pose l'impossible comme, au fond, le sens profond de tous nos actes et comportements. Et donc, il y a une sorte de plaisir esthétique, peut-être, aussi de l'échec. Et en cela, en effet, je pense que Butler, tout en étant très ironique, et parfois, je dirais, volontairement, alors comment dire, castratrice, en tout cas, elle veut en tout cas, voilà, pointe quelque chose d'important dans cette image, qui, si elle avait été dite à l'époque du règne des modernes, aurait stupéfié tout le monde, parce que, évidemment, le théoricisme, le terrorisme intellectuel était apparemment tout sauf romantique.
L'idée qui est quand même très moderne, c'est que les mots et les choses, pour le dire comme Foucault, ne coïncident pas, c'est ça. Et donc, quelle que soit la volonté performative, Derrida dit, on écrit pour communiquer quelque chose à des absents. Et face à ça, ce que fait Judith Butler, c'est s'inspirer, si j'ai bien compris, du travail de John Austin, qui est un psychiatre qui a écrit un livre qu'on trouve en français, hein, qui s'appelle, significativement d'ailleurs, qui s'appelle « Quand dire, c'est faire », et qui prône une conception du langage exactement inverse, c'est-à-dire que le langage dans l'esprit de Austin est utilisé pour faire, pour affirmer des phrases telles que « je promets de faire cela » ne va pas être compris comme une phrase constatative, mais performative. Et Judith Butler s'inspire de ça pour former sa propre conception de la langue, ce qui va avoir une très grande importance dans l'idée du coming out et dans l'idée de dire qui on est, dire je retourner l'insulte discriminative, je suis pédé, et en faire une sorte de déclaration performative, je suis homosexuel, je suis pédé, je suis gay, ça va devenir ça s'inscrit dans cette conception du langage là et donc contre les modernes. C'est ça, j'ai bien compris.
Disons que pour Butler, donc le genre est socialement construit.
Ouais.
Mais comment est-il construit ? Eh bien, il est construit essentiellement par donc ce fameux performatif, à savoir ces énoncés qui fabriquent quelque chose. L'idée que l'énoncé ne fait pas que désigner ou qu'illustrer ou que représenter, mais l'énoncé réellement fabrique. Nous sommes fabriqués à coup d'énoncés performatifs, les assignations de genre dès l'enfance, les assignations de comportement sexuel, etc. Tout cela relève donc du performatif qui est un système, je dirais, où elle étend la théorie d'Austin à la totalité du langage, qui sont tous des énoncés sociaux. Et donc, ça suppose, en effet, que le langage fonctionne sur un mode pragmatique, sur un mode de l'action. Et évidemment, les modernes sont absolument pas dans cette atmosphère-là. Et Derrida, le premier, qui va passer sa vie entière, jusqu'à la fin, à vouloir ruiner le performatif dans lequel il voit l'horreur absolue, à savoir ce qu'il appelle l'idéologie communicationnelle, à savoir qu'on communique. Non, pour Derrida, on ne communique jamais, il n'y a pas de communication, les lettres n'arrivent pas à destination. Enfin, on est dans un rapport toujours de différence, où les choses sont différées perpétuellement. Et c'est là que c'est vraiment intéressant sur le plan de la stratégie intellectuelle, tout en se tenant à ce pragmatisme social extraordinairement rigide et inflexible, néanmoins, Butler va enrôler Lacan, Derrida, Althusser, Foucault, pour précisément nourrir ce pragmatisme social, je dirais, de l'intensité intellectuelle des modernes, des Français.
Elle utilise des modernes, mais vous dites qu'en fait, son pragmatisme social, c'est du sociologisme et ça se rapproche beaucoup du langage de l'entreprise, en fait.
Le sociologisme, vous savez, le sociologisme, c'est un discours qui est en effet à la fois partagé par beaucoup de champs, aussi bien le champ d'entreprise, le champ institutionnel, et les notions notions que Butler emploie, comme la notion d'agency ou d'empowerment.
Empowerment, oui.
Ou d'enabling. Tout cela, ce sont des notions, donc, qui renvoient à la puissance d'agir, selon elle, à tout ce qui est en jeu, justement, dans les relations de l'homme au socius, des individus au socius. Eh bien, en effet, ces notions, ces catégories-là appartiennent également à la libre, au discours de l'entreprise. Et il y a un point que j'aurais justement soulevé, c'est que, au fond, ce que dit la pensée du genre, c'est évidemment, c'est une sorte d'aspiration à l'émancipation, à la gender fluidité, même au genderless, etc. Mais on peut demander, au fond, pourquoi cette aspiration ne cacherait-elle pas un autre ordre? Pourquoi ça serait de la pure émancipation? Pourquoi, au fond, tout d'un coup, par opposition au, je dirais, à ce qu'on appelle le binaire, les oppositions binaires, etc., pourquoi cet appel à la fluidité des genres ne serait pas, elle aussi, le masque d'un ordre social qui, précisément, parlerait au travers de cette pensée-là? Mmh. Et on pourrait dire tout à fait que, par exemple, toute la pensée du genre Butler est en parfaite harmonie avec le discours néolibéral. Il est d'ailleurs, ce qui est frappant, donc, dès le début, je le dis, c'est quand même frappant, c'est que les grandes entreprises américaines et internationales ont toutes intégré, le système du genderless et même au-delà, puisque maintenant les trans deviennent un enjeu international pour ces grandes entreprises, il n'y a aucun problème pour eux. Et on pourrait très bien considérer qu'après tout, on est dans l'idéologie du self-making, de la construction de soi, où on obéit, au fond, à une idéologie néolibérale. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est comment, au fond, le mot genre qui a surgi de l'université Berkeley et de cette espèce de d'atmosphère très émancipée, très, très, très ouverte, en réalité, peut tout à fait être lu autrement. Autrement, et par exemple, c'est pas une lecture que je voudrais absolument unique, hein. Il y a d'autres lectures possibles et simultanées qui sont parfois même contradictoires. On pourrait y voir précisément peut-être dans ce genderless, dans cette gender fluidité, quelque chose qui relève en effet de l'idéologie parce que, et c'est aussi un autre élément de mon livre, c'est de montrer comment au fond la théorie n'est jamais complètement séparée de l'idéologie, c'est-à-dire que la théorie, entre guillemets, avec un grand T, et c'est ce que Foucault, par exemple, démontre à propos du concept de l'état de l'inceste, hein, comment il montre qu'au fond, la manière dont la théorie occidentale, française, européenne, a mis au devant de la scène l'interdit de l'inceste, en réalité, participe complètement de ce qu'il appelle le dispositif de sexualité, qui est le dispositif occidental.
On va y venir à propos, parce que vous en parlez longuement dans le livre, on va y venir dans une seconde. Faces and names, I wish they were the same. Faces and names only cause trouble for me. Same, we all had the same name. I wouldn't be jealous of you, you jealous of me. Faces and names, I always fall in love with someone who looks the way I wish that I could be. I'm always staring someone who hurts, and the one day he hurt is me. Faces and names, to me they're all the same. If I looked like you, you looked like me, it'd be less trouble you'd see. Faces and names, I wish they'd go away. Disappear into that wall and never talk. Faces and names.
Oui, donc
Michel Foucault, pour continuer la discussion sur le sexe des modernes, Éric Marty, et sur l'archéologie intellectuelle des gender studies. Michel Foucault est peut-être le seul de la bande des modernes que Judith Butler peut revendiquer à bon droit, en quelque sorte. En tout cas, c'est ce que vous suggérez dans le livre. Vous faites l'archéologie à un moment donné vous faites une lecture de la volonté de savoir en particulier, dans lequel vous montrez, vous analysez son tournant, ce qu'on a appelé le tournant néolibéral de Foucault, le moment où pour lui la loi doit laisser place à la norme.
Voilà. Alors c'est aussi pas seulement l'aventure de Foucault, c'est l'aventure au fond de tous. C'est ce rapport à la loi. Oui. La loi, cette génération-là, et même celle un peu antérieure, puisque Lacan est un peu plus vieux qu'eux, cette génération-là a une forme de une culture, une éducation, une structure intellectuelle dans laquelle la loi a une place absolument inouïe. Et donc, il y a plusieurs solutions. Il y a des solutions de jouer avec la loi, donc la position, qu'on pourrait dire perverse au sens des années 70, c'est-à-dire pas du tout dans le sens pathologique d'aujourd'hui. Barthes, Deleuze, Derrida, qui vraiment font la perversion un moyen d'éviter la loi, tout en tenant compte de la loi, tout en l'intégrant à leur système. Donc un jeu très compliqué, avec une fascination pour l'inceste, pour tout un tas d'opérations, en quelque sorte, intellectuelles, très brillantes, sur le plan de l'écriture. Et puis, je pense qu'en effet, il y a Foucault. Foucault, à mon avis, je suis très admiratif de Foucault, malgré certaines divergences, ou en tout cas certaines oppositions, pour l'espèce de décision qu'au fond il prend, dans les années 70, de rompre avec son propre milieu et de devenir ce que j'ai appelé un peu le post-européen, c'est de considérer que tout cela c'est la littérature, tout cela n'a plus de pertinence, tout ça n'a plus de réalité vivante, et qu'il faut donc casser ça. Et la grande opération Foucault fait, c'est une opération très importante qui touche qui se résume à un seul énoncé. Nous sommes passés d'une société qui jusque-là était fondée sur la loi à une société qui est fondée sur la norme. Et ça change tout, évidemment, parce que nous quittons l'univers du symbolique, nous quittons l'univers de la mort, nous quittons l'univers, justement, de la souveraineté pour un univers beaucoup plus ouvert.
En apparence. On passe de l'univers de l'interdit et de la transgression, et donc l'univers du crime et de la loi, à l'univers de la norme, de la procédure et de l'accès à d'avoir accès à ou non, comme dans les ordinateurs. Ouais. Plus rien n'est interdit, certaines choses sont possibles, d'autres pas, et puis c'est tout.
C'est une longue marche, je dirais, de la part de Foucault, que d'élaborer cette notion de norme, qui va prendre plusieurs formes. Au départ, ça va être une vision un peu négative de la norme, puisqu'elle est liée au monde judiciaire, c'est la norme disciplinaire. Mais progressivement, je dirais que Foucault va ouvrir la norme à plus qu'elle-même, ou en tout cas une forme d'extension sociale, ce qu'il appelle l'extension sociale de la norme, où celle-ci contient sa propre subversion, contient sa propre modification, et l'idée, fondamentalement, qu'il emprunte aux sciences du vivant, et d'où le biopouvoir, tout ça, c'est que la norme, au fond, contient en elle-même cette puissance d'extension, de transformation, d'irrégularité de la vie, et donc nous ouvre, au fond, à un rapport au pouvoir qui n'est plus du tout un rapport, justement, celui des modernes, à savoir le pouvoir comme une domination externe, mais quelque chose qui est dans le fond d'interaction de l'individu avec son entourage.
Et le point central pour Butler, dans la discussion des genders, c'est que cette remise en cause, cet abandon de l'ordre symbolique, chez Foucault, ça prend la forme d'un enterrement du XXe siècle. Dans l'optique de Foucault, le XXe siècle s'est soumis au mythe du sexe. Le sexe est partout, dit H. Lawrence, la révolution sexuelle fait partie de ça aussi. Et il s'agit de considérer que le sexe n'est en fait qu'un avatar construit par le dispositif de sexualité dont il faut s'affranchir. Donc, il faut se débarrasser du sexe pour construire une sorte de monde où tout se négocie. Il va aller jusqu'à prôner le plaisir sans désir, si j'ai bien suivi, et à faire l'éloge des communautés monosexuelles.
Oui,
c'est là que Judith Butler va à la fois pouvoir intégrer la question du genre, parce que si le sexe disparaît en tant qu'élément fondateur et tant que loi, il est possible de dire que le sexe n'est qu'une construction sociale dont on peut se passer, on peut déconstruire ça, mais il va y avoir un problème quand même.
Voilà, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que tous ces gens-là, de toute façon, aussi sont tous dans l'échec, parce que, je dirais, prendre la question sexuelle, je dirais, aussi profondément, ne peut mener qu'à des formes d'impasse ou de difficultés, et en tout cas des parcours très chaotiques et très complexes. Et en effet, Foucault est très intéressant parce qu'il y a deux grandes phases, on pourrait dire, chez Foucault. Il y a la phase de la volonté de savoir en 76, qui en effet affirme que le sexe est une construction occidentale et que jamais on a autant parlé de sexe que dès lors qu'il a paru être réprimé, qu'en fait la répression du sexe n'était qu'une manière de le rendre obsédant et omniprésent. Et là-dedans, il y a toute une théorie du pouvoir qui est vraiment intéressante, où il montre que le pouvoir n'est pas négatif, que le pouvoir est productif, que le pouvoir produit des choses, que c'est pas quelque chose qui dit non, le pouvoir, c'est quelque chose qui au contraire incite, fait proliférer. Et puis il y a une seconde phase qui, à partir de là, va dans le sens d'un discours beaucoup plus personnel de Foucault. Alors, vous avez parlé de la communauté monosexuelle, l'idée qu'au fond, le vrai espace où la différence sexuelle peut être abolie, c'est quand on est entre soi.
C'est quand on sépare les sexes.
Voilà. Exactement. Ouais. Et puis, il va y avoir un autre aspect qui est vraiment très important, c'est l'aspect SM, sadomaso, mais justement, Foucault ne dit jamais sadomaso, il dit SM, c'est-à-dire qu'il en fait une sorte de sigle à l'américaine, hein, toujours vider les choses de leur contenu pour garder les sortes d'appellations signalétiques, en quelque sorte. Le SM qui va devenir pour lui le modèle, précisément, de l'interactionnalité. Le modèle d'une forme de liberté et d'une forme de... On se débarrasse là aussi, et c'est le paradoxe, le concept de maître, par exemple, qui est pourtant omniprésent. Par exemple, chez Deleuze, quand il fait son éloge du masochisme sur le maître, pour lui, non. Le rapport SM est un rapport interactif, de switch, du renversement des rôles, et d'extension de la norme, presque infinie, qui se réforme elle-même, qui se réécrit elle-même sans cesse. Et donc, à partir de là, en effet, les notions de gens peuvent, en effet, trouver leur place.
Mais alors, la clé, c'est que le sexe est si central en Occident, tout simplement parce que c'est aussi là que l'individu prend une dimension importante. Le sexe devient important parce que la question du désir individuel devient importante, évidemment. Donc, la remise en cause de la centralité du sexe en Occident, c'est évidemment la remise en cause de l'individu, du sujet individuel en même temps. Et donc, de l'identité individuelle. Exactement. Butler ne considère pas le sujet comme existant. Le sujet individuel n'existe pas.
Voilà, c'est pour ça que je parlais d'un rapport interactionnel et de jeu ou sans sujet. En effet, au sens où Althusser parlait de l'histoire comme un processus sans sujet, eh bien on pourrait dire que cette idée d'un processus sans sujet est au cœur même d'une pensée, de la pensée de Foucault dernières années.
Alors, mais c'est là que les problèmes vont aussi se poser. Ils sont de deux sortes. Ils sont d'une sorte. C'est le surgissement de l'identité à travers la non-identité, c'est-à-dire la question trans. Julie Butler publie Trouble dans le genre en 90, C'est corps qui compte en 93. En 2004, elle publie Défaire le genre, qui est considéré par la critique comme l'anti-trouble dans le genre, dans lequel elle revient, elle critique ses propres positions. Entre les deux, il y a eu la publication du livre de John Colapinto, le journaliste, livre encensé par Tom Wolfe, paru en français sous le titre Bruce, Brenda et David, l'histoire du garçon que l'on transforma en fille, et que les auditeurs intéressés trouveront les références du livre sur la page de l'émission, parce que c'est un livre fantastique et fondamental. Ce bouquin met en scène l'histoire réelle de John Money, qui a été le pionnier de la notion de genre, qui a inventé le mot gender role, et l'histoire de David Reimer, qui a été son patient, un gamin mal opéré d'une phimosis, pris en charge par Money, qui a voulu lui ôter des testicules, le préparer une vaginoplastie et l'éduquer comme une fille pour en faire le premier cas de transsexualisme réussi, et ça s'est avéré une catastrophe. Et David, après s'être révolté, après être redevenu un homme en quelque sorte et s'être marié, a fini par se suicider, comme son frère jumeau d'ailleurs. L'histoire a eu un retentissement énorme, y compris sur Judith Butler, qui a été obligée de se dissocier de Monet. Et par ailleurs, la question du transsexualisme a posé un problème de fond à la question des genres. à la question du genre.
Voilà, alors ça c'est vraiment aussi une chose très importante dans le livre, c'est-à-dire d'établir aussi la généalogie du genre du côté américain, c'est-à-dire montrer d'abord qu'avant Butler, il y a eu une théorie du genre beaucoup plus anarchiste, beaucoup plus individualiste, comme Gail Rubin, par exemple, qui est vraiment alors là très très européenne en ce sens, mais aussi, surtout, peut-être, John Monnet. John Monnet qui, très tôt, dans les années 50, va construire la notion de genre, mais sur un mode, je dirais, alors tout à fait assez proche de Butler, puisqu'il prétend que le genre, c'est une construction parentale, culturelle, etc. Donc, il n'y a pas de problème, sauf que lui...
Sauf que lui prône très vite la chirurgie.
Voilà, et il va dans le sens qu'au fond, qui est une possibilité...
Une réassignation du genre.
Qui est une possibilité de la théorie du genre, c'est de surconstruire le genre. Hein, puisque si on pense qu'il y a du genre... Si on pense qu'il y a du genre, il y a deux solutions. Soit on défait le genre, soit on va vers le genderless. Mais on peut, pourquoi pas, faire du genre quelque chose qui, au contraire, va être non pas déconstruit, mais surconstruit. Et c'est ce qu'en effet fait John Monnet avec sa clinique, qui est près de John Kim's, voilà. Et il va, en effet, il y a cet épisode très important de David Reiner, dit Brenda. Et la catastrophe qui s'ensuit, et c'est ça qui, c'est là où le trouble dans le genre est à son maximum, puisque Butler est elle-même troublée dans sa théorie du genre.
Ah oui. Et puis par ailleurs, il y a un problème très vite logique qui se pose, c'est-à-dire que si la métamorphose trans est prescrite à la suite d'un diagnostic psychiatrique qui répertorie la dysphorie sexuelle, hein, on l'a vu avec le documentaire Petite fille récemment qui est passé sur Arte, ça signifie qu'il y a donc un vrai sexe.
Voilà.
On n'est plus dans la construction sociale.
Exactement.
La personne qui souffre d'une dysphorie sociale, d'une dysphorie sexuelle, se sent avoir un sexe réel différent de celui auquel est assigné. Donc, on a un problème. Est-ce que le sexe est une construction sociale ou est-ce que le sexe existe vraiment et duquel il s'agit?
Et l'émise serait une essence absolue. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait l'idée d'une enveloppe différente de l'intérieur, hein, où la personne aurait en soi une essence féminine, mais contrariée par une enveloppe masculine ou l'inverse. Donc c'est ça qui est vraiment, vraiment fascinant, et ça montre comment et c'est tout le travail de mon livre, si vous voulez, c'est montrer comment les logiques conceptuelles aboutissent à se contredire ou à se réfuter elles-mêmes.
C'est-à-dire que vous dites que dans l'espace LGBTIQ, les trois premières lettres renvoient aux orientations sexuelles, lesbienne, gay, bi, et le trans, la quatrième lettre, le T, renvoie à une identité.
Et à l'idée, au fond, que aujourd'hui, alors on va revenir sur John Monnet et tout ça, mais l'idée qu'aujourd'hui, c'est que la lettre T veut prendre le pouvoir sur le LGBTQI, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir qu'au fond, l'idée d'une pacification des relations interhumaines par ce genre de théorie émancipatrice, ça ne fonctionne pas. Le conflit, à mon avis, est toujours omniprésent et toujours inhérent à toute démarche. Et toute démarche libératrice engendre, d'une certaine manière, des éléments de terreur et des éléments d'interdit. Donc, la lettre T, en effet, veut le pouvoir. Mais ce qui est fascinant, c'est que Butler, c'est pour ça que je la suis du début jusqu'à la fin, est intéressante à voir dans son comportement, parce qu'elle est en effet très embarrassée par cette histoire de David Brenda, et par rapport à ça, va avoir une position au fond incertaine à l'égard de la question trans, qui n'a jamais été chez elle, je dirais, symboliquement notée. C'est-à-dire quand on lit par exemple « Troubles dans le genre », elle parle de transsexuel, elle ne parle pas de transgenre.
Oui,
c'est un problème ça, parce que si le concept de genre, en effet, est un concept si universel que cela, pourquoi n'aurait-il pas migré jusqu'à permettre de passer de transsexuel à transgenre? Or, elle parle de transsexuel. Et par la suite aussi, il y a que très tard, quand justement il y a ces histoires qui apparaissent, en 2004, lors du suicide de David, qu'elle insère cette idée de transgenre, mais de manière toujours très, très, un peu paniquée, parce que on est réellement dans la pagaille du genre, et par quelque chose qui est inattendu, à savoir que, au fond, les normes se renforcent, qu'au fond, la norme se renforce, la théorie du genre aboutit à un renforcement des normes de genre, puisque, en effet, le trans veut absolument être une fille ou un garçon.
Il y a le même type de contradiction avec la question de la race, hein, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a race, est-ce qu'il n'y a pas race.
Voilà, il y a plusieurs perturbations qui introduisent du trouble dans le trouble dans le genre. C'est d'un côté le trans en tant qu'il désorganise, je dirais, l'idée d'une émancipation du binaire. Puisque le trans réintroduit le binaire, je veux être un homme, je veux être une femme, je veux absolument un prénom, je veux que la société me reconnaisse comme homme, comme femme, je veux que la société me donne un prénom masculin ou féminin, je veux que la société me fasse suivre un traitement hormonal qui me permette, je veux que la société me...
C'est-à-dire que le désir individuel qui est censé ne pas exister, finalement, ressurgit,
absolument,
mais d'une manière complètement improbable, enfin d'une manière extrême.
Tout à fait.
Et on peut se demander, on va arriver à la fin de cette émission, donc on ne peut pas tout vous creuser, mais je voudrais finir quand même sur cette question du T, du trans, qui devient trans tout court. Hein, on n'est plus... trans tout court, ça devient le trans tout court, on n'est plus transgenre ou transsexuel, ça devient trans. Est-ce que ça ne pose pas la question de, finalement, derrière le trans, il y a femme en quelque sorte? Qu'est-ce qu'on fait de l'identité de la femme dans ces histoires? Est-ce que c'est pas cette question-là? Moi, je suis frappé par l'importance du trans aujourd'hui, en particulier du trans homme qui va vers la femme. Hein. On a vu Joe Biden récemment autoriser les trans hommes à participer aux compétitions sportive féminine. Donc il y a toute cette avancée en ce moment qui se fait dans le plus total
chaos. Alors disons que
est-ce que ça pose pas la question de quelle place dans cette nouvelle architecture des genres où il y a plus de genre, quelle place donner à l'identité féminine ou la féminité qui n'est pas du tout réglée, question qui n'est pas du tout réglée.
Disons que dans mon livre depuis le début au fond, c'est la question de la femme qui est en jeu. C'est-à-dire, il me semble qu'en réalité, quelle que soit la position, toute démarche qui vise à repenser, à subvertir, à transgresser le sexe remet en cause la femme. Voilà. Comme si elle était le pivot, en réalité, c'est pas l'homme qui est le pivot, c'est la femme qui est le pivot, en réalité, de la différence sexuelle et le pivot, justement, des identités. Alors, évidemment, c'est assez frappant de voir comment, aujourd'hui, le phénomène trans est d'une violence absolument inouïe contre l'idée de femme, mais il y a un nouveau concept qui me paraît très important, qui n'est pas misogyne, mais qui est de gynophobie. C'est-à-dire la gynophobie comme haine de la femme née femme.
Maintenant, alors, écoute. Je suce le sang de mon prochain. Je sème la mort. Là où le vent m'emmène, je cherche le cœur de mon amant pour y planter mes dents.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille, avec à la réalisation Luc Jean et à la technique Christophe Michou, Louison Soulignac, Laurent César, Loïc Duros, Franck Malabry, Francesca Fossati, Wojciech Noiret. Dans un instant, une histoire particulière.
Je sais que j'ai tort de te faire ce sacrifice. Rejoins-moi.